Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Nicolas Arnaud, directeur du programme Grande École de l'ENSA. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On se retrouve depuis le campus de Paris pour notamment analyser les résultats CIGEM qui sont tombés hier. Donc pour une nouvelle année, Odensa se trouve à la 6e place du classement CIGEM. Première question, Nicolas Arnaud, comment Odensa se maintient dans ce gratin d'école?
Alors effectivement, on est très content à nouveau des résultats du concours Grande École sur classe préparatoire, donc avec le classement 6e. Et cette 6e place pour la 18e année consécutive, c'est-à-dire depuis l'origine même du 6e. Alors cette stabilité, à mon sens, elle est fondamentalement due à ce positionnement historique d'Odensia dans sa capacité finalement à contribuer à la définition des nouvelles tendances des business schools. Ça a été vrai il y a bien longtemps, à la fin des années 90, sur la culture et les humanités. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'écoles parlent de culture et d'humanité. Ça a été vrai sur les engagements très tôt qui ont été pris par l'école sur la responsabilité sociale des entreprises, avec notamment la signature du Global Compact avec les Nations Unies dès 2004 de mémoire, donc bien avant que ça devienne à la mode. Et plus récemment, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'hybridation des compétences, de la double compétence, avec là aussi une position d'Odensia en tant que créateur de ces nouvelles tendances au sein des business schools françaises et internationales. Donc j'ose espérer effectivement que cette histoire d'innovation finalement est au cœur de cette stabilité dans le gratin du top 6 des business schools françaises. Et j'ajouterais, parce qu'on l'entend souvent, qu'il y a dans cette école des valeurs. Des valeurs qui, alors c'est vrai que le discours sur les valeurs est souvent galvaudé aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, mais quand on rentre à Odensia, on observe souvent qu'il se passe quelque chose, effectivement, qui ne se passe pas ailleurs, ne serait-ce qu'en regardant le sourire à la fois des étudiants et des collaborateurs d'Odensia. Donc c'est effectivement une école avec des valeurs, et je pense que les valeurs aujourd'hui, ça compte encore dans le rayonnement d'une institution.
Vous êtes entré en fonction début 2017. Depuis cette date, vous avez initié de grandes nouveautés dans le cadre du programme Grande École d'Odensia. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un premier bilan de ce qui a été mis en place et expérimenté par les étudiants?
Alors effectivement, vous avez bonne mémoire, si j'ai pris mes fonctions de directeur de grande école en mai 2017 précisément, j'étais quand même adjoint à la grande école sur un périmètre extrêmement large pendant un peu plus de 5 ans. Donc c'est un programme que je connais bien, une école que je connaissais bien avant même d'arriver à la direction du programme grande école. Alors de fait, en 2017, on avait mis en place l'English Track dès la première année. Il y avait l'English Track, mais ça commençait plutôt en deuxième année. Donc ça, c'était une nouveauté de la rentrée 2017. On avait mis en place un parcours sur le digital, un parcours thématique sur le digital qu'on a pleinement renforcé depuis. Et on ouvrait également, de mémoire, un 6e parcours géographique sur les USA, avec donc un parcours tout en anglais, avec des cours sur le cinéma hollywoodien et la littérature nord-américaine contemporaine. Tout ça avait très très bien marché dès la première année, parce que l'English Track, on y allait avec une petite inconnue. On avait ouvert 80 places, on avait eu 170 demandes, ce qui nous a fait ouvrir d'ailleurs 170 places l'année d'après. Le parcours USA, ça a tellement bien marché qu'on a dû le dédoubler dès la première année, ainsi que le parcours digital. Donc de fait, ces premières innovations avaient bien fonctionné. Elles existent toujours, elles ont été forcément renforcées, stabilisées. Ensuite, à la rentrée 2018, on avait surtout signé un certain nombre de doubles diplômes, donc plutôt au niveau des spécialisations plutôt qu'en début de cursus. Donc on avait signé avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On avait signé avec l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, avec Sciences Po Rennes également. Et puis on avait ouvert de nouvelles spécialisations, notamment une nouvelle spécialisation qui s'appelle Managing Sustainable Impact, qui est pour travailler finalement sur le pilotage des stratégies de développement durable des entreprises, ainsi qu'une spécialisation en com et médias. Ça a bien marché en termes de choix, c'est-à-dire les étudiants se sont positionnés sur ces deux nouveautés, avec globalement de mémoire entre 20 et 25 étudiants, ce qui est plutôt qualitatif en fait et confortable. Et surtout, non seulement ils avaient choisi, mais quand on a fait le bilan de ces ouvertures en termes de satisfaction étudiant, on était déjà pour un premier tour finalement, une première ouverture à un bon niveau de satisfaction, puisque de mémoire on était un peu plus de 8 sur 10 de satisfaction étudiant. Voilà. Donc plutôt un bilan positif. C'est vrai que dans les nouveautés, s'il y a quand même, je ne vais pas vous faire croire que tout a bien marché non plus, il y a un truc qui a un peu moins bien marché. Si je suis totalement transparent, on a proposé en fait une plus grande flexibilité dans le phasage, en permettant aux étudiants qui le souhaitaient, à l'issue de la première année, de partir en stage long plutôt que d'enchaîner avec un troisième semestre académique. Donc ça marche. Enfin, ça marche au sens où c'est opérationnel. C'est aujourd'hui 25 à 30 étudiants qui choisissent ce nouveau phasage, là où, en toute transparence, en espérant d'avoir 70-80. Alors, en tous les cas, les étudiants qui le font sont ravis, donc ça, c'est quand même une satisfaction. Mais on espère que dans les années qui viennent, il va y avoir un peu plus d'étudiants à suivre ce nouveau phasage, parce que vraiment l'objectif, c'était de donner encore plus de flexibilité dans la construction de son cursus à Audencia. C'est vraiment l'un des axes tout à fait structurants qui était le mien et de ma nouvelle équipe en 2017, quand j'ai pris mes fonctions.
Après, on peut le comprendre parce que Audencia, effectivement, se distingue peut-être d'autres écoles en ayant un recrutement majoritairement préparationnaire,
ouais, c'est vrai,
et que c'est peut-être quelque chose qui arrive très tôt dans leur cursus.
Tout à fait.
Et sur lesquels on peut se dire qu'on a manque de confiance en soi, et ceci peut expliquer cela.
C'est effectivement ce qui nous a été dit, et du coup, on l'a compensé par un stage international à la fin de la première année pour ceux qui ne partaient pas en stage long. Mais du coup, le stage court qui existait déjà dorénavant doit se faire à l'international. Et d'ailleurs, c'est la première promo là, qui part cet été. Toute la promo 2022 se retrouve aujourd'hui aux quatre coins du monde pour réaliser leur premier stage Audencia de fait à l'international. Et c'est avec beaucoup de réjouissance qu'on a constaté que tout le monde a trouvé un stage à l'international.
Et ça dure combien de temps?
C'est un premier stage de 6 semaines. Donc c'est vraiment un stage découverte. Mais vous avez des étudiants qui vont travailler à l'ambassade de France aux États-Unis, d'autres dans des organisations humanitaires en Angleterre ou au Bangladesh ou ailleurs. Donc il y a vraiment tout type de missions, ce qui est assez réjouissant. Et c'est ce que me disaient les étudiants là, avant qu'ils partent justement. C'est que ça nous a forcés, me disaient-ils, à sortir de notre zone de confort et à rechercher par nous-mêmes des stages. Finalement, on serait resté dans l'entreprise familiale, ou du tonton, ou de l'oncle, ou du cousin. Et en fait, ils ont été obligés effectivement de sortir de cette zone de confort. Et l'une de mes étudiantes me disait « Audencia est ambitieux pour nous ». Je trouvais que c'était une belle formule pour traduire aussi ce qui nous a poussé dans cette décision l'an dernier pour rendre ce premier stage obligatoirement à l'international.
Et on imagine l'importance du réseau Alumni aussi, qui depuis l'étranger va pouvoir coopter des étudiants de l'école en première année. Donc on a abordé effectivement les nouveautés 2017-2018, mais il y en a aussi beaucoup en 2019, étant donné que vous avez fait pas mal d'annonces depuis le début de l'année. Donc quelles sont ces nouveautés auxquelles peuvent s'attendre les étudiants qui intègrent là en première année, et aussi ceux qui actuellement sont en fin de première année de prépa et qui s'apprêtent à entamer leur deuxième année?
Alors, il y a encore un grand nombre effectivement de nouveautés à la rentrée prochaine. Il y a toujours cet English Track avec 170 places dès la première année, un peu plus de 500 à partir du cycle master. Nous ouvrons deux nouveaux parcours thématiques en première année, donc à la rentrée 2019, un parcours sur le luxe avec des cours de philosophie et d'anthropologie du luxe, et également un parcours thématique sur le cinéma d'animation et le gaming. Et en fait, ce parcours est notamment un prérequis, en tous les cas une introduction qui est intéressante par rapport à une nouvelle spécialisation qui ouvrira également en 2020, en septembre 2020, sur la création et la production audiovisuelle. Nous avons signé différents accords de double diplôme cette année avec deux nouveaux instituts d'études politiques, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et Sciences Po Aix, avec des étudiants qui vont se retrouver chez ces deux partenaires dès septembre prochain en réalité, en matière de spécialisation et de double diplôme. Nous ouvrons également un nouveau master spécialisé sur le management de la filière musicale qui aura lieu dans ce campus d'ailleurs parisien avec l'ensemble des acteurs de la filière musicale. Une nouvelle spécialisation sur le pilotage des stratégies d'internationalisation des PME et des ETI. Donc vraiment pour accompagner ces entreprises dans des relais de croissance que constituent les stratégies d'internationalisation. On sait que le territoire français, européen et international en fait est extrêmement peuplé de PME et d'ETI, mais on constate aussi assez souvent qu'il y a une petite lacune très souvent de compétences pour mener justement à bien ces stratégies d'internationalisation. Et puis également une nouvelle spécialisation sur la compliance et le management des risques, donc spécialisation en anglais également, qui ouvrira en janvier 2020, vraiment là aussi pour contribuer à ce besoin très très fort depuis quelques années des institutions financières pour gérer tout ce qui est toutes les questions de conformité et de gestion des risques financiers. Ce sont des postes extrêmement recherchés aujourd'hui, sur lesquels les entreprises recrutent énormément, mais il y a peu de compétences disponibles sur le marché. Donc voilà, bientôt il y aura des Audencia.
Et donc en fil rouge du travail que vous menez depuis plus de 25 mois, on semble distinguer la notion d'hybridation des compétences, qui vous est très chère, notamment au sein de l'Alliance avec Centrale Nantes et l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Pourquoi ce choix de l'hybridation des compétences ?
Alors, ce choix de l'hybridation, effectivement, qui est apparu globalement au milieu des années 2000, avec une première signature, notamment avec Centrale Nantes en particulier, puis ensuite un réseau d'écoles d'ingénieurs, dans les premières années, et aujourd'hui avec l'école d'archi, des écoles de droit, des instituts d'études politiques, l'IFP que j'évoquais tout à l'heure également. L'objectif, en fait, il est très simple, hein, c'est que historiquement, quand on s'est positionné sur ingénieur manager, l'idée c'était, on dit souvent que la France est un pays d'ingénieurs et pas de managers. Eh bien, en fait, partant de ce constat-là, on s'est dit, ben, comment nous, à notre niveau, en tant qu'école, on pourrait contribuer à faire la France pas seulement un pays d'ingénieurs, mais aussi de managers, voire d'ingénieurs-managers ou de managers-ingénieurs. Donc il y avait une finalité finalement sociétale, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec l'idée de pouvoir agir à notre niveau. Et avec l'idée que les entreprises seraient extrêmement réceptrices effectivement à ce type de profil hybride. Et ça n'a pas raté, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que globalement, en termes d'insertion professionnelle et de salaire à la sortie, il y a un delta entre un double diplômé ingénieur-manager ou manager-ingénieur et un seul manager en moyenne en tous les cas. Au-delà de la finalité sur les métiers, sur les entreprises, il nous semblait aussi intéressant pour les préparationnaires en particulier, qui, pour un certain nombre, ont hésité entre une prépa EC et une prépa scientifique. C'était l'occasion de renouer éventuellement avec leur premier amour. Et effectivement, c'est souvent ce type de profil qui choisissent la voie ingénieur-manager. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis ensuite, on a capitalisé sur cette expertise parce que c'est vraiment une expertise que de pouvoir travailler avec un ensemble d'écoles partenaires pour rendre possible ce genre de phasage, de double diplôme. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, je faisais le point sur nos conventions. On a plus de 35 conventions de double diplôme aujourd'hui sur des terrains de jeu divers et variés, ce qui contribue effectivement à rendre accessible plus de 70 parcours de spécialisation aujourd'hui au sein du parcours grande école. Donc il n'y a pas une volonté pour nous de double diplômé ou triple diplômé un peu tout le monde, parce que en fait, très souvent, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a du sens, c'est effectivement manager Sciences Po, ça a du sens. Manager juriste ou ingénieur, ça a du sens parce que c'est vraiment une double compétence. Ensuite, il y a les doubles diplômes internationaux pour commencer sa carrière à l'international. Mais finalement, le diplôme central, c'est bien le diplôme, le grade master au DNCA Grande École.
Alors, on parlait de ces préparationnaires qui pourront finir double ou triple diplômé. Avez-vous un conseil à leur donner avant leur intégration en école? Parce qu'on sait pas loin de 500 étudiants vont rejoindre l'école en septembre 2019. Est-ce que vous avez un petit conseil pour les aider à préparer l'été et à entrer de plein pied dans leur vie de nouvel étudiant d'école de management?
Alors déjà, félicitations à vous, promo 2023. Avec l'ensemble des équipes audencières, on aura plaisir à vous accueillir effectivement à partir de la première semaine de septembre. Le conseil, il est simple, c'est soyez en forme, venez avec votre énergie, l'énergie qui a été la vôtre durant le concours et durant vos années de prépa. Et comme je l'ai dit tout au long du concours, on aura vraiment très sincèrement plaisir à travailler avec vous durant l'ensemble des 3, 4, 5 ou 6 années, en fonction des choix qui seront les vôtres, en tout cas à travailler avec vous sur votre projet professionnel.
Merci à vous, Nicolas Arnaud. Et puis on en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances.
Merci, bel été à vous.